La revue de presse. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez de générosité.
La discussion a lieu dimanche soir, juste après le journal télévisé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Se demande Jérémy avec sa compagne Jessica. Tous les deux chamboulés par ces images d'Ukraine, les colonnes de réfugiés. On s'est imaginé avec nos deux filles à la place de tous ces gens. La guerre, Jérémy a bien connu. Avant de devenir grutier, il était militaire. Passé par l'Afrique, l'Afghanistan, il en a vu de près des familles démunies, des personnes âgées paumées et des enfants qui trinquent au milieu. Alors, Jérémy et Jessica ont décidé d'ouvrir leurs portes. Et l'on aperçoit leur pavillon ce matin à la une du bien public. Bon, on se dit qu'il ne doit pas être bien grand, mais pas de problème, on a une chambre qui est vide, on peut accueillir et faire de la place à table. Pour l'aspect financier, il suffira de faire une pause dans les travaux à la maison. Et puis tiens, il y a même une autre voiture à dispo, si besoin. Jérémy ne sait pas trop vers qui se tourner, mais il a déjà pris contact avec une école de Vendée, jumelée avec une école en Ukraine, et il attend des nouvelles. Jessica, Jérémy ne sont pas les seuls à vouloir aider. Et de la générosité, le bien public en a plein ses colonnes. Angélique, 42 ans, avec ses deux filles de 15 et 17. De petits moyens, un petit F3, mais on s'arrangera. Regardez, les grandes peuvent dormir dans la même pièce, moi dans la salle à manger. Ma chambre sera libre pour des réfugiés. Bon, je ne pourrai le faire que 2-3 semaines, mais ce sera avec plaisir. Je pourrais vous parler aussi de Karine et de son corps de ferme, 200 mètres carrés. Là, c'est plus grand. On ne se marchera pas dessus. En plus, je suis une ancienne restauratrice. Je peux faire à manger pour tout le monde. Comme le résume cette historienne dans La Croix, la proximité géographique et humaine de l'adversité, cette proximité constitue un facteur puissant de mobilisation. Alors je sais, vous allez me dire, c'est bien joli, mais ce ne sont là que des mots, tous ces gens ne se rendent pas compte, et tout cela manque cruellement d'organisation. Sauf que quand on veut, on peut. Solidarité générale, c'est la une de La Provence, solidaire aussi les lecteurs de Corse Matin, ceux de Presse Océan, et il y en a des colis sur les photos. Tandis que le Républicain Lorrain vous emmène à Corny-sur-Moselle. La commune met à disposition une maison pour une famille ukrainienne. Et ça, c'est du concret.
Et d'ailleurs, Jean-Philippe, les premières familles arrivent.
On est première page du courrier Picard et du journal de Saône-et-Loire avec une famille en larmes, mais une famille saine et sauve, à l'abri. Tatiana, Vitali et leurs deux enfants qui ont fui leur appartement de Kiev dès les premiers bombardements, réfugiés aujourd'hui à Autun. Monsieur le maire raconte qu'il a été alerté par une association. Alors on a fourni un logement, un brocanteur du coin a trouvé des meubles, d'autres riverains un peu de vaisselle. Bon, il faut dire qu'ici on a l'habitude d'accueillir les naufragés de la guerre. Des Irakiens, des Syriens sont déjà passés par Autun. D'ailleurs, d'autres réfugiés sont en route, d'autres appartements se préparent. Qui aurait cru que l'Ukraine et la Saône-et-Loire pouvaient être si proches ? Et la Russie, si loin, infréquentable Russie, titre La Croix, étranglée à la une du Midi Libre, dans l'étau des sanctions, résume Les Échos. C'est même un carton rouge qui occupe toute la première page de l'équipe. Moscou exclu de toutes les compétitions internationales, football, olympisme, quelque chose a changé. Sous la plume de Vincent Duluc, historiquement, chacun sait que la FIFA et le CIO n'ont pas toujours été dans le camp de la démocratie, défilant joyeusement aux côtés de quelques dictateurs, avec un penchant régulier pour la lâcheté et la compromission. Bref, comme une sorte de nouveau courage, oui, parce que dans toutes ces sanctions, il y a une part de risque et donc de courage, écrit Jérôme Chapuis dans La Croix. Il parle quant à lui de l'Union européenne. Elle démontre qu'elle n'est pas ce club de pays assoupi et décadent. Face à la brutalité de Poutine, elle se résout enfin à prendre son destin en main. Alors la Russie, seule au monde ? Pas tout à fait. Pendant ce temps, à Pékin, la Chine, de plus en plus embarrassée, parce que la Russie reste son allié, mais un allié encombrant. Papier des Échos qui raconte la contorsion rhétorique d'un pays qui se refuse à condamner Moscou, mais qui ne veut pas non plus apparaître comme celui qui soutient une invasion de l'Ukraine. Ligne de crête, attention à ne pas dégrader encore un peu plus les relations avec l'Europe et les États-Unis. Oui, on parle calcul, économie, diplomatie ce matin dans vos journaux. On en oublierait presque la guerre qui continue au sol. Kiev à vif, c'est la une de Libération. Au sol et dans les airs, avec ces images satellites impressionnantes, ce convoi militaire russe d'une soixantaine de kilomètres. On en a parlé dans le journal de 8 heures. Colonne imposante de chars, de blindés. Vous la voyez ce matin sur les sites du Monde, de West France ou de CNN. Elle ne se trouve plus désormais qu'à quelques encablures de Kiev.
Et vous terminez, Jean-Philippe, avec un lecteur.
Un billet plutôt émouvant. Vous le trouverez en dernière page de La Croix, signé Alexis Génie, l'écrivain qui vous annonce que le journal vient de perdre son plus ancien lecteur. Il feuilletait La Croix depuis 1926. Il avait 9 ans à l'époque et 104 lorsqu'il s'est éteint. Le vieux monsieur aimait le papier, mais ronchonnait parfois en lisant les chroniques d'Alexis Génie. Il les trouvait inégales. Façon sans doute de se protéger d'une fierté un peu enivrante, peut-on lire. Alexis Génie le glisse au détour d'une phrase. Ce plus ancien lecteur du journal où il écrit aujourd'hui, ce lecteur était tout simplement son grand-père.
Merci Jean-Philippe Ballas.